La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
Je suis à nouveau avec Jean-Luc Atteia, qui est astrophysicien à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie à Toulouse, et qui est spécialiste des phénomènes violents dans l'univers, en particulier les sursauts gamma, qui nous envoient des rayonnements X et gamma à très haute énergie. Et il nous a expliqué la semaine dernière comment ces sursauts ont été découverts de façon comme une surprise par des satellites militaires. Et depuis, ils ont été beaucoup étudiés et on commence à comprendre ce dont il s'agit. Alors, on a parlé de la distance, on a vu que c'était des objets célestes qui étaient à très grande distance de nous. Jean-Luc, qu'est-ce que ça veut dire très grande distance? Ils sont à quelle distance de nous, en fait, ces objets célestes, ces explosions célestes que nous voyons maintenant?
Alors, les astrophysiciens ont l'habitude de mesurer les distances avec une unité particulière qui est l'année et lumière, qui est donc la distance parcourue par la lumière en une année, qui vaut à peu près 10 000 milliards de kilomètres. Et donc, si on s'intéresse au sursaut gamma, la lumière a voyagé pendant plusieurs milliards d'années avant de nous parvenir, c'est-à-dire que les sursauts gamma sont à plusieurs milliards d'années-lumière de distance.
Plusieurs milliards d'années-lumière, ça veut dire qu'en fait, ils se sont produits pas très très longtemps après le début de l'univers.
Alors les plus anciens qu'on ait réussi à détecter se sont produits seulement 600 millions d'années après le début de l'univers, et les plus récents se sont produits peut-être il y a un milliard d'années ou quelque chose comme ça, donc beaucoup plus proche de nous.
Alors si on les voit très loin, en fait, ça ne veut pas dire qu'ils sont concentrés dans une sorte de couronne, mais en fait, il y en a eu, ça veut dire qu'il y en a eu partout, de ces sursauts gamma à cette époque-là, et en particulier là où nous sommes actuellement. Il a dû y avoir des explosions il y a très longtemps. Simplement, je pense que c'est la lumière de ces explosions, les rayons X et gamma de ces explosions qui ont eu lieu à l'endroit où nous sommes actuellement, nous ne pouvons pas les voir nous-mêmes. Il faudrait des gens situés à des milliards d'années-lumière pour qu'ils puissent les voir. C'est ça, c'est quelque chose qui est difficile souvent à comprendre.
Oui, tout à fait. On n'est pas à un endroit spécial dans l'univers. Ce qu'il y a, c'est que les sursauts gamma sont assez rares. Il y en a qui sont pointés vers nous, disons deux ou trois par jour dans tout l'univers. Donc si on veut avoir des chances de les voir, on est obligé d'explorer un très très grand volume d'univers. Et donc, presque automatiquement, ce qu'on va détecter, nous, seront très lointains. On peut avoir des sursauts qui se sont produits dans la galaxie, bien sûr, mais comme ils sont très rares, ils ont dû se produire il y a 10 millions d'années, 20 millions d'années, et pour l'instant, on n'est pas capable d'identifier dans notre galaxie les restes de ces événements-là, juste parce qu'ils se sont produits il y a trop longtemps.
Alors ces sursauts, est-ce qu'ils sont tous pareils? Ou est-ce qu'il y en a plusieurs sortes? Est-ce qu'il y en a qui durent plus ou moins longtemps? Est-ce que ça provient aussi du même phénomène? On va en parler un petit peu plus. Donc d'abord, est-ce qu'il y a plusieurs sortes de sursauts gamma?
Alors oui, ça c'est une découverte qui a eu lieu en fait assez tôt dans l'étude des sursauts gamma. Alors qu'on ne connaissait encore que l'émission gamma, on s'est aperçu qu'il y avait des sursauts qu'on appelait courts, et qui durait de l'ordre d'une seconde, voire moins, et dont l'émission gamma, disons, durait une seconde, et des sursauts qu'on appellera longs, dont l'émission gamma durait entre 2 secondes et peut-être 1000 secondes. Et on a suspecté assez tôt que ce n'étaient pas les mêmes phénomènes qui provoquaient ces deux types de sursauts gamma.
Mais attends un peu, 2 secondes, quelques secondes, on regarde tout l'espace et il faut qu'on tombe juste quand on peut observer ces 2 secondes très intenses de rayons gamma. Ce n'est pas évident de tomber juste dessus.
Alors tout à fait, on est obligé d'avoir des instruments qui surveillent une grande partie du ciel. Et ça, heureusement, les détecteurs de rayons gamma sont capables de faire ça. Par contre, ils sont capables de détecter ces flashs, mais c'est très difficile de les localiser. Parce qu'on ne peut pas à la fois observer une très grande partie du ciel et localiser précisément. Et c'est ça qui a constitué la grosse difficulté pendant des années. On voyait ces phénomènes, mais on n'était pas capable de les localiser.
Alors revenons à ces deux sortes de sursauts. Les sursauts longs, alors maintenant, il y a eu beaucoup d'études théoriques pour comprendre ce que c'est, où on en est maintenant, est-ce qu'on a compris d'où ça vient ?
Alors on a bénéficié effectivement de plusieurs années d'études théoriques très, très intenses et très importantes, mais aussi d'observations. Je vous ai dit que les sursauts longs étaient les plus lointains, étaient très lointains, mais certains d'entre eux se produisent de façon suffisamment proche pour qu'on puisse détecter après le sursaut, une fois que la lumière du sursaut commence à s'éteindre, ce qu'on appelle une supernova, qui manifeste très clairement que c'est une étoile qui a explosé. Donc les sursauts longs, de cette façon-là, ont été associés de façon non ambiguë à l'explosion d'une étoile qui est, d'après les modèles, une étoile très massive.
Mais alors, on a une étoile qui explose, et comment ça se fait qu'elle se met à émettre des rayons gamma aussi, avec une aussi grande énergie, enfin en quelques secondes, autant que le Soleil rayonne en toute sa vie, c'est-à-dire 10 milliards d'années. Comment c'est possible, ça ?
Alors, on associe ça à la naissance d'un trou noir, c'est-à-dire que le cœur de l'étoile s'effondre et forme un trou noir, et ce trou noir va avaler en quelques secondes tout l'ensemble du cœur de l'étoile, c'est-à-dire ça correspond à la matière qui tombe sur le trou noir, c'est quelques milliers à quelques dizaines de milliers de fois la masse de la Terre, chaque seconde, qui tombe dans le trou noir. Alors évidemment, à ce rythme-là, tout le cœur de l'étoile est avalé par le trou noir en quelques secondes, et pendant cet événement cataclysmique où le trou noir avale le cœur de l'étoile, eh bien, il y a énormément d'énergie qui est libérée et qui part sous forme de jet. Et ensuite, ben, on ne voit plus rien une fois que le trou noir a fini de vider son environnement.
Alors, ça part sous forme de jet, si j'ai bien compris, parce que ça tourne vite et que la matière qui tombe sur l'étoile, il y en a une partie qui repart perpendiculairement selon les pôles de rotation, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la matière qui, au début, la matière tourne, hein, le cœur de l'étoile est en rotation, et au pôle, quand le trou noir se crée, la matière tombe directement dans le trou noir et il ne se passe rien. Et ensuite, pour faire tomber la matière qui tourne autour du trou noir, ben, il faut la freiner, et c'est ça qui libère énormément d'énergie. Et cette énergie, elle n'a que deux endroits pour s'échapper, qui sont les pôles de l'étoile. Et donc, il faut ensuite que toute l'énergie qui est émise, il faut en plus qu'elle arrive à traverser toutes les couches extérieures de l'étoile. Et ça, les modèles ont montré que dans certains cas, c'est possible, et on voit un sursaut gamma. Et dans d'autres cas, les couches extérieures sont assez épaisses, et le jet ne pourra pas traverser. Et ce phénomène, le même phénomène qui fait les sursauts gamma, restera invisible.
Alors, si l'énergie est concentrée dans des jets, il faut que les jets soient dirigés vers nous pour qu'on le voit. Donc, ça veut dire qu'il y a énormément de sursauts gamma qu'on ne voit pas, parce que tout simplement, les jets qui émettent cette très grande énergie ne sont pas dirigés vers nous.
Oui, tout à fait. Ça, c'est tout à fait vrai. Et donc, on estime qu'il y a à peu près 200 à 500 fois plus de sursauts gamma que ceux qu'on voit, nous.
Et alors les autres, là, les cours, il y a aussi une histoire de trous noirs là-dedans ?
Alors les cours sont restés longtemps plus mystérieux parce que autant les longs se produisaient dans des régions de formation d'étoiles, autant les cours avaient l'air de se produire n'importe où. Les gens ont pensé que donc il devait s'agir, si on les associait à des étoiles, à des systèmes vieux. Et on a trouvé la solution en 2017, donc il y a seulement 5 ans, quand on a eu l'association d'un sursaut gamma court avec une onde gravitationnelle qui a prouvé que le sursaut gamma court était associé à la fusion de deux astres compacts qu'on appelle des étoiles à neutrons. Donc je ne rentrerai pas ici, c'est un peu compliqué, mais deux astres qui ont la masse du Soleil et qui ont un rayon de 10 km, donc très 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 compacts, qui tournent l'un autour de l'autre et qui, au bout d'un certain temps, finissent par fusionner en faisant un événement cataclysmique qui va aussi créer un trou noir. Et donc ce trou noir va accréter la matière qui l'entoure et émettre aussi pendant un temps très court, plus court que pour le sursaut long, hein, 2G qui vont faire ces sursauts courts.
Donc on voit que ces phénomènes très violents dans l'univers qui nous envoient une énergie intense sont liés à des trous noirs et c'est lié aussi aux phénomènes d'ondes gravitationnelles. Donc je pense que ce sont des sujets dont on doit reparler encore une fois. Donc on va faire une troisième émission la semaine prochaine avec Jean-Luc Atteia qui va aussi prendre le temps de nous parler de ce satellite franco-chinois qui va être envoyé en 2023, je crois, pour étudier encore mieux tous ces sursauts gamma. À la semaine prochaine.